Bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, le bâtiment optimisé proposé par Axéo. Je vous rappelle que cette émission sur Radio Immo, elle vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments, que ce soit l'énergie, l'amiante, l'ascenseur, la CVC, on en avait parlé la dernière fois, ou encore l'accessibilité. Et ce mois-ci, eh bien, nous allons tout savoir sur le PPPT. Alors, ça n'a rien à voir avec le PowerPoint, hein, bien connu de ceux qui font des présentations. Là, on parle du projet de plan pluriannuel de travaux, donc PPPT, mais on va voir qu'il y a aussi un PPT. Nos experts avec nous sur le plateau pour nous éclairer. Mickaël Thérome, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur métier énergie pour le bureau d'études Axéo et on est accompagné de Mathieu Mialaré. Bonjour Mathieu.
Bonjour Fabrice.
Directeur métier de l'administration de biens pour Foncia. Un petit mot justement de Foncia, on connaît bien, mais justement de cette division.
Oh bah l'administration de biens, c'est vraiment le métier phare de Foncia. Hein. Foncia qui est le premier administrateur de biens en France, syndic et gestion locative. On gère à peu près 70 000 copropriétés. Ça représente presque 2 millions de lots principaux, 400 000 appartements en gestion locative, 70 000 locations par an. Et puis, on fait aussi 20 000 transactions et 22 000 locations vacances.
Ah bah, ça fait pas mal. Et du coup, vous êtes bien placé pour nous en parler. Mickaël, on rappelle Axéo, bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la performance énergétique.
Tout à fait.
Ok, tout de suite, on passe à notre sujet du jour. Pourquoi on parle du PPPT ?
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Le sujet du mois, PPPT, c'est la loi du 22 août 2021 Climat et Résilience qui remet en place le plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés et qui le rend progressivement obligatoire dès le 1er janvier 2023. Elle traite en même temps du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique et l'interdiction d'augmenter les loyers de louer et de vendre des logements en F ou en G. Et on le rappelle, ce dès le 1er janvier 2025. Attention, ça va arriver vite. L'objectif est évidemment de favoriser l'entretien, les investissements et de faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. L'écologie, bien sûr, c'est un enjeu de société majeur. Le bâtiment, on le sait, est le secteur le plus énergivore avec près de 50% de l'énergie consommée en France. La rénovation énergétique est au centre du plan de relance et c'est le chantier des 10 prochaines années. On parle de pas moins de 100 milliards de travaux pour les seuls copropriétaires. Copropriété énergivore. Alors, qu'est-ce que le PPPT ? Quand faut-il le faire ? Que doit-il contenir ? Sur quoi être vigilant ? Comment assurer qu'il soit utile aux gestionnaires et aux copropriétaires ? Comment le mettre en œuvre ? Toutes ces questions avec nos experts. Le décryptage, c'est maintenant.
Le bâtiment optimisé. Le décryptage des experts.
On démarre avec vous, Mickaël. Donc, on dit PPPT, ce projet de plan pluriannuel de travaux, c'est quoi exactement ?
Alors c'est une étude qui fusionne une étude technique et une étude énergétique. L'étude technique qui existait auparavant, qui s'appelait le diagnostic technique global, qui a été fusionné avec le DPE collectif. En fait, ça permet de faire prendre conscience aux copropriétaires des travaux qui doivent être réalisés dans les 10 prochaines années. Ça permet aussi de favoriser l'entretien et les investissements liés notamment aux pathologies qui peuvent se retrouver sur les copropriétés et de pouvoir faciliter la réalisation des travaux de rénovation énergétique, notamment avec le prix de l'énergie qui est de plus en plus important.
C'est vrai que c'est un sujet majeur hein, qui est dans la tête de tout le monde en ce moment, en lien avec le pouvoir d'achat et des élections qui sont dans pas très longtemps. Qui est concerné et à quelle date, Mathieu Mialaré ?
Alors les syndicats de copropriétaires sont concernés, à condition qu'il y ait au moins un lot d'habitation. Donc les syndicats de copropriétaires d'habitation, ils sont tous concernés s'ils ont plus de 15 ans. Voilà, il faut que l'immeuble ait au moins 15 ans.
Donc tous les immeubles neufs, finalement, ils passent entre les gouttes.
Voilà, alors je pense qu'on a le droit de mettre en place un plan pluriannuel de travaux si on a un immeuble neuf, mais c'est pas une obligation. C'est une obligation, donc, dès que l'immeuble a 15 ans. Et cette obligation, elle va s'échelonner en trois paliers. Donc le premier palier pour les immeubles de plus de 200 lots principaux, donc les plus gros immeubles. Et le plan pluriannuel de travaux sera réalisé dès 2023, à partir du 1er janvier 2023. Pour les immeubles entre 50 et 200 lots, 2024 et 2025 et au-delà pour tous les immeubles de moins de 50 lots.
Très bien. C'est vrai que 15 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est 2007, hein, tous les bâtiments, c'est ça, antérieurs à 2007, mais aujourd'hui.
C'est ça, oui. Dès que l'immeuble a 15 ans, il faut commencer à anticiper des travaux de maintenance.
Voilà. Et on va ajouter donc à la liste des documents obligatoires chez le notaire, ce PPT, s'il n'a pas été adopté, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire le projet de plan pluriannuel de travaux alors deviendra une annexe du carnet d'entretien et puis devra être transmis au candidat acquéreur à l'occasion de la vente, même à l'occasion de la promesse de vente, de manière à ce que le candidat acquéreur soit parfaitement informé. C'est un des objectifs du projet de plan pluriannuel de travaux.
On continue avec vous. Comment ça marche pratiquement? Quelles sont les différentes étapes?
Alors, il y a trois étapes, en fait. La première étape, donc, c'est de réaliser ce projet de plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire de faire intervenir un ingénieur du bâtiment qui va dresser cette liste de travaux recommandés dans les 10 ans qui viennent. Alors là, l'Assemblée générale ne se prononce que sur les modalités d'exécution, c'est-à-dire le choix de l'entreprise, le budget et les modalités de financement. Et lorsque ce projet de plan pluriannuel de travaux est réalisé, il y aura une petite phase de travail avec le conseil syndical de manière à déterminer finalement quelle est la stratégie que le conseil syndical veut préconiser et veut proposer à l'Assemblée générale. Et puis on proposera à l'Assemblée générale de transformer ce projet de plan pluriannuel de travaux en un plan pluriannuel de travaux qui lui est adopté par l'Assemblée générale. Donc là, ce sont les copropriétaires ensemble qui définissent entre eux en AG la stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre pour l'entretien et l'amélioration de la performance de leur bâtiment. Donc ça, si ce projet est devenu un plan pluriannuel de travaux, eh bien il reste après à dérouler les différentes échéances du plan pluriannuel de travaux en votant l'engagement des travaux proprement dit à chacune des échéances.
Combien à peu près pour le budget il faut prévoir?
Pour un projet de plan pluriannuel de travaux, je crois que c'est entre 80 et 100 euros du lot à peu près.
D'accord.
Et là, Michael saura mieux répondre que moi.
Alors, Michael, justement, pour compléter.
Oui, alors, au niveau, ça dépend de la taille de la copropriété, bien sûr, et comment elle est structurée. Est-ce qu'il y a plusieurs immeubles séparés, etc. Mais en gros, effectivement, c'est pour les très grosses copropriétés, plus de 200 lots, ça va être entre 50 et 80 euros du logement. Et pour les plus petites copropriétés, ça peut aller jusqu'à 150 euros du logement. Et ce que je souhaiterais aussi préciser, c'est que dans le projet de plan pluriannuel de travaux, donc les 3P, PPPT, le prestataire, l'ingénieur, va devoir proposer plusieurs plan pluriannuel de travaux sur lequel effectivement, comme le précisait Mathieu, les copropriétaires vont pouvoir s'engager sur un des plans pluriannuels de travaux qui sont présents dans le projet.
D'accord, donc PPPT, quand il y en a trois, c'est le projet et on passe au plan une fois que ça a été adopté et voté. Tiens, petite info peut-être d'actualité, vous êtes Mathieu Ménard sur le terrain. Alors justement, est-ce que les copropriétaires sont déjà conscients de ça? Est-ce qu'on a des remontées terrain sur ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on s'empare du sujet ou pas vraiment?
Oui, alors d'abord les copropriétaires n'ont pas le choix, ils le savent, c'est une obligation, contrairement au précédent diagnostic, le DTG notamment qui n'était pas obligatoire. De toute façon, les copropriétaires savent qu'ils doivent travailler sur l'amélioration de leur bâti, l'amélioration de la performance énergétique. On parle beaucoup de l'explosion des prix de l'énergie, on est vraiment en plein dedans. Aujourd'hui, c'est incontournable que de se poser la question de l'amélioration énergétique du bâtiment. Et ça concerne tous les copropriétaires, ils sont convaincus qu'il faut poser un diagnostic, élaborer une stratégie et la mettre en œuvre.
Alors, on reparle de ce projet, Michael. Que doit-il comprendre exactement?
Alors le PPPT, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, doit comprendre tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, aussi préserver la santé, la sécurité des occupants et la réalisation d'économies d'énergie sur la copropriété. Il doit aussi évaluer le niveau de performance énergétique de l'immeuble basé sur un DPE collectif et bien sûr estimer le coût de chacun des plans pluriannuels de travaux pour savoir sur les 10 prochaines années qu'est-ce que vont devoir voter en Assemblée Générale les budgets pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Et donc c'est vraiment de proposer un outil d'aide à la décision pour planifier dans le temps avec un échéancier sur 10 ans de tous les travaux qui vont devoir être réalisés.
Mathieu, une question, finalement c'est un véritable outil de pilotage qu'on a là. Mais j'ai l'impression que comment on faisait avant, on avait une boussole parce que c'était quand même fait, c'était peut-être pas aussi cadré.
Il y a déjà eu des tentatives avec un premier DPE, un audit énergétique, avec le DTG, mais qui n'a pas rencontré beaucoup de succès. Non, là je pense que ce dispositif-là a l'intérêt d'être assez synthétique, assez homogène. Et puis vous le disiez tout à l'heure, là, il y a vraiment une prise de conscience de l'intérêt d'avoir un outil de pilotage, surtout de définir une stratégie. C'est-à-dire que dans chaque immeuble, il doit y avoir une stratégie d'entretien. Et une stratégie de transition énergétique. Comme les entreprises doivent aborder la transition vers le numérique, les immeubles doivent aborder la transition énergétique, améliorer la performance, et il ne doit pas y avoir un seul immeuble qui n'ait pas sa stratégie. Après, est-ce qu'on part dans une rénovation énergétique globale, ou est-ce qu'on embarque de la rénovation énergétique à chaque fois qu'il faut lancer une opération d'entretien lourd, la toiture, les façades? Bien, le projet de plan pluriannuel de travaux va aider à prendre cette décision.
Et au moins, c'est cadré, c'est structuré. On a noir sur blanc les différentes étapes, à quel moment, et ensuite, on prend la décision. Outil d'aide à la décision aussi, qu'est-ce qui permet de faire finalement? Qu'est-ce que ça apporte aux copropriétés, ce PPPT?
Ça apporte donc pour le conseil syndical cette base qui va permettre de déterminer la stratégie qui sera proposée à l'Assemblée. Et puis aussi, pour tous les copropriétaires, en fait, ça apporte de l'information. Ça apporte de l'information aux candidats acquéreurs, mais même aux copropriétaires qui habitent dans l'immeuble depuis longtemps et qui peut-être est moins investi que d'autres, et c'est pas forcément quelles sont les grandes échéances d'investissement qui arrivent. Ça permet de se préparer, et puis ça permet aussi de définir le montant de la cotisation au fonds de travaux sur des bases réelles. Pour l'instant, quand on cotise, on sait pas exactement dans quel objectif on cotise. Là, au moins, on sait exactement ce qu'on se prépare à financer.
Michael, ça va aider évidemment les gestionnaires, les propriétaires. Comment est-ce qu'on le rend indispensable, cet outil?
Déjà, c'est de réaliser une analyse technique la plus précise possible, notamment identifier toutes les pathologies qu'il peut y avoir sur la copropriété. Ensuite, c'est de faire une évaluation énergétique la plus précise possible. C'est vrai que cette réglementation impose que les calculs soient réalisés à partir d'un DPE collectif, mais il existe d'autres méthodes de calcul, comme la simulation thermodynamique, qui permet de projeter plus finement la baisse de charge, les baisses de consommation énergétique pour la copropriété. Ensuite, c'est de prendre en compte, bien sûr, tous les contrôles obligatoires, c'est-à-dire les contrôles quinquennaux, le plomb, l'amiante, qui vont avoir, notamment l'amiante, avoir un impact sur le coût de rénovation s'il y en a.
Ça sera également inclus dans le PPPT?
Aujourd'hui, c'est pas demandé,
mais
on pourrait le faire, l'inclure effectivement, d'avoir aussi cette vision sur les contrôles obligatoires pour faire tout en un, quoi. Et je pense qu'avant tout, les copropriétaires ont besoin d'un... Mathieu parlait d'outils, effectivement, pour prendre des décisions, mais il faut que le rapport d'étude soit pédagogique. Et avec des photos, parce que si on donne un fichier Excel à la copropriété, ils vont pas pouvoir prendre des décisions. Il faut qu'ils aient envie de le lire, de se rendre compte, tiens, c'est ça ma copropriété, et voilà les travaux qui sont vraiment nécessaires pour la sauvegarde de mon immeuble et pour réduire les consommations énergétiques.
Ouais, donc c'est vraiment de l'accompagnement, c'est une base en fait, un véritable carnet, un peu comme la voiture, je dirais, on a un contrôle technique, là on va véritablement
Michael
avoir...
Michael a hyper raison de dire que ça doit être pédagogique, il ne faut pas un outil technico-technique très compliqué à lire.
Ouais. Ça sent vécu,
tant pour les gestionnaires que pour les copropriétaires. Si c'est trop compliqué, il va terminer sur une étagère et personne ne l'utilisera. Donc il faut vraiment beaucoup de pédagogie, ça c'est fondamental, Michael a raison de le souligner.
Et ensuite, il y a aussi la notion de priorité. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont vraiment nécessaires, obligatoires. Il y a des travaux qui sont préventifs. C'est-à-dire, la copropriété, si elle ne fait rien, son bâtiment va se dégrader dans le temps. Et après, il y a des travaux d'amélioration. Uniquement l'embellissement de la copropriété. Et de pouvoir présenter les plans pour le travaux en disant ça, ce sont des travaux vraiment obligatoires, nécessaires à faire dans un an, par exemple. Et ensuite, les travaux qui sont préventifs, il faut les faire dans les 5 prochaines années. Ça permet d'aider la copropriété à prendre les bonnes décisions au bon moment.
On reparle, d'énergie, rénovation énergétique. Est-ce que les copropriétés, elles ont tout intérêt à faire justement cette rénovation énergétique?
Ah oui, ça dépend effectivement de l'âge de la copropriété et des différentes réglementations thermiques à la construction neuve à l'époque et aujourd'hui on parle de RE2020. Donc toutes les copropriétés qui sont antérieures à 1990, qui ont été construites avant 1990, ça vaut vraiment le coup de faire des travaux parce que ces travaux-là sont extrêmement rentables. Toutes les copropriétés qui ont été construites entre 1990 et 2001, les travaux permettent encore de faire des gains énergétiques importants. Au-delà, ça se discute. Au-delà de 2001, ça se discute.
Qui peut réaliser ce PPPT?
Alors, la loi Climat et Résilience prévoit la sortie d'un décret d'application pour savoir quelles sont les personnes qui vont pouvoir réaliser ce type de, ce type de prestations, d'études. Alors, le projet de décret est sorti et effectivement, ils ont repris, le ministère a repris les compétences nécessaires pour faire un diagnostic technique global, c'est-à-dire quelqu'un qui, un ingénieur bâtiment qui connaît toute la partie pathologie bâtiment, mais ils ont rajouté pour la dimension énergétique, c'est-à-dire que le prestataire va devoir, l'ingénieur, avoir des compétences en thermique du bâtiment et notamment une certification pour pouvoir réaliser des DPE collectifs. On ne peut pas se décréter comme diagnostiqueur, c'est impossible. Il faut passer un examen. Il doit avoir obtenu cet examen pour pouvoir réaliser ce type de prestation.
Mathieu Mialaré, une question là justement, on a vu qu'il y en a un gros paquet là, avec la loi climat et résilience qui arrive, le DPE, PPPT, comment ça s'articule pour vous, quel va être le lien justement entre les deux, le PPT d'un côté et le DPE, ça fait beaucoup d'acronymes, le diagnostic de performance énergétique?
Alors ça fait beaucoup de choses, mais il y a une vraie cohérence, hein, puisque il faut avoir fait un diagnostic de performance énergétique pour savoir exactement quels travaux mettre en œuvre à l'avenir. Ça a une importance très forte aussi pour nos copropriétaires, puisqu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs, et nos propriétaires bailleurs vont très vite être contraints par les étiquettes énergétiques, hein, puisque les plus mauvaises étiquettes énergétiques vont générer des interdictions de louer à court, moyen terme, hein, dès 2025.
Oui.
2025 pour les plus mauvaises, puis ensuite 2028, 2032. Donc clairement, ces copropriétaires-là vont être hyper intéressés par la mise en œuvre de travaux d'amélioration. Ils vont tous être intéressés, hein. Le prix de l'énergie fait que maintenant, c'est le sujet de tout le monde. Mais encore plus les propriétaires bailleurs, encore plus ceux qui ont des contraintes réglementaires à remplir.
Sujet d'actualité, justement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces passoires thermiques, hein, qu'il faut contrer, évidemment. Chez Foncia, justement, vous avez cartographié, vous avez une idée, justement, des travaux que ça va représenter sur les années à venir?
Oui, bien sûr, hein, on a cartographié très précisément nos lots d'habitation, hein, pour la gestion locative. Et effectivement, on commence à sensibiliser les propriétaires bailleurs avec cette difficulté que s'ils réalisent les travaux dont ils sont maîtres, hein, les travaux privatifs, bah, ils n'ont pas la certitude d'améliorer sensiblement les étiquettes énergétiques. Et donc la nécessité de mettre en place une synergie entre la partie syndic, les parties communes, et la partie gestion locative pour les parties privatives.
Mais oui, c'est un tout, hein, vous nous l'aviez expliqué déjà. L'idée, c'est de ne pas faire simplement sa petite partie chez soi dans son coin, mais il faut le penser global finalement, ce DPE.
C'est la clé, hein, c'est la clé, le penser global, parce qu'effectivement, beaucoup de la consommation provient avant tout du bâti, donc des murs, de la toiture, des menuiseries, etc. Et du coup, de penser le projet globalement permet à tous les copropriétaires de bénéficier de ces baisses de consommation et du coup ces baisses de charges énergétiques également.
Et les travaux vont se multiplier, donc on imagine dans les années à venir. Merci messieurs les experts, vous restez avec nous. Tout de suite, les questions des auditeurs.
Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
Alors, Axéo, nos experts sont là pour nous répondre. Tiens, première question, le PPT peut-il servir à obtenir des aides comme ma prime rénov? Michael.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ma prime rénov aujourd'hui est une subvention à l'échelle de la copropriété. Hein, ce n'est pas une subvention individuelle pour chacun des copropriétaires. C'est une subvention qui est déposée sur le compte du syndicat des copropriétaires. Pour obtenir cette subvention, il faut prouver au moins 35% d'économie d'énergie sur la facture énergétique globale du bâtiment. Et on peut se servir du PPPT, du projet de plan pluriannuel de travaux, pour justifier le fait qu'on fasse moins 35% et leur permettre d'obtenir une aide à hauteur à minima de 25% du montant global des travaux pour la copropriété. Et il n'y a pas de condition de revenu. C'est-à-dire que tous les copropriétaires ont droit à cette subvention dès que des travaux globaux sont réalisés sur la copropriété.
D'accord, bon, bah plutôt une très bonne nouvelle. Autre question, on a déjà un petit peu répondu. Combien coûte le PPT en moyenne, on l'a dit? 80, de 80
oui, entre,
à 150
entre 50 et 80 pour les grosses copropriétés de plus de 200 logements, et ça peut aller jusqu'à 150 euros par logement pour les petites copropriétés.
Oui. Ok, comment on le finance? Est-ce qu'on peut utiliser le fonds de travaux?
Ah oui.
Oui, on peut utiliser le fonds de travaux. La préparation du projet de plan pluriannuel de travaux fait partie des travaux qui peuvent être financés par le fonds de travaux, donc aucun problème.
Donc ce qui a été provisionné jusqu'à aujourd'hui peut tout à fait être utilisé effectivement pour financer le PPPT. Après, si l'Assemblée Générale adopte un des plans pluriannuels de travaux, alors cette provision ne sera plus basée sur 5% du montant des charges, mais sur 2,5% par an du montant du plan pluriannuel de travaux. Si ces 2,5% est supérieur aux 5% du montant des charges.
Très bien. Question, tiens, pour Foncia. Alors, au regard de l'explosion des prix de l'énergie, les propriétaires ont-ils davantage envie de faire les travaux?
Voilà. Alors, je sais pas s'ils ont très envie de faire des travaux, mais...
En tout cas, alors, on précise peut-être de réduire leur consommation énergétique à tout le moins.
Ouais, bien sûr. C'est devenu complètement incontournable. Hein. On est passé de prix historiquement bas de l'énergie, du gaz en particulier l'année dernière, à des prix historiquement hauts. Ouais. Là, le prix du gaz a été multiplié par 3, par 4 quelquefois. L'électricité, c'est pareil. Donc, c'est plus un sujet. Il faut changer nos comportements, peut-être éteindre le chauffage un peu plus tôt, réduire les températures de chauffe, mais il faut surtout envisager des travaux et profiter des financements qui existent aujourd'hui. Là, il y a vraiment un alignement des planètes qui fait que la réalisation de travaux de performance énergétique...
Le prix de l'énergie qui explose, hein, qui est en train d'exploser, qui veut dire peut-être si ça continue, si ça perdure, des factures dans les années à venir qui seront
hautes. C'est aujourd'hui ces factures-là, malheureusement.
Des aides, effectivement, pour réaliser ces travaux, donc effectivement, c'est plutôt le moment. La loi Climat et Résilience a introduit des interdictions de louer en fonction de la lettre énergétique du DPE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, on l'a un peu évoqué. Donc c'est un mécanisme qui vise à retirer du marché finalement les logements les moins performants. Donc 2025 pour toutes les étiquettes G, c'est-à-dire vraiment un niveau de consommation très élevé. Même 2023 pour le pire du pire des étiquettes G. Au 1er janvier 2023.
Pour les H, non, ça n'existe pas.
Alors, ça n'existe pas, mais nous, on les appelle les G+, c'est-à-dire parmi les G, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale. C'est un peu technique, mais Michael connaît ça mieux que moi. Et donc, c'est dès maintenant, en fait, le retrait du marché des biens les plus énergivores. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ne va pas les retirer du marché, mais on va les transformer en biens avec... Peut-être pas une étiquette A ou B, mais en tout cas une étiquette D peut-être, c'est-à-dire des biens beaucoup plus
performants. Donc 2025 c'est G, 2028
c'est F, ouais. Alors je connais pas exactement les seuils de consommation, mais enfin ça descend assez vite. Et 2034, j'ai dit 2032 tout à l'heure, je crois que c'est 2034 pour les étiquettes E.
Ouais. Donc ça laisse un petit peu de temps pour ajuster le tir.
Permettre aussi aux bailleurs de revenir en assemblée générale, puisque effectivement aujourd'hui donc ils louent le logement, mais la difficulté pour eux c'est que c'est pas eux qui payent l'énergie, ce sont leurs locataires.
Bien sûr.
Et du coup cette interdiction va les faire revenir en assemblée générale pour motiver la copropriété à engager des travaux d'amélioration énergétique. Sinon ils vont se retrouver en difficulté demain sans pouvoir louer leur logement.
Et puis ce sont des travaux, on le dit quand même, assez lourds. Hein. S'il s'agit d'une façade ou de huisserie, c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais en tout cas, c'est un temps long. Donc, il ne s'agit pas de s'y pencher en 2024 pour 2025.
Voilà, et puis surtout, profiter de toutes les subventions, de tous les mécanismes d'aide qui sont en place actuellement et qui ne vont peut-être pas perdurer.
Elles n'ont jamais été aussi importantes, les subventions pour les copropriétés.
Ouais, c'est vrai que là, on a senti que le gouvernement...
Mathieu, effectivement, parlait d'alignement des planètes, mais c'est exactement ça. Hein. C'est qu'on a aujourd'hui des obligations d'un côté, le prix de l'énergie qui explose, mais aussi des subventions très intéressantes.
Et vous avez raison de dire que les bailleurs vont devenir moteurs finalement dans le déclenchement ou la mise en place de plans d'investissement, de plans de travaux, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'avant, peut-être qu'ils cherchaient plutôt la rentabilité du bien immédiate. Là, les bailleurs, mais aussi les propriétaires de locaux commerciaux vont devenir moteurs parce qu'eux sont confrontés à des obligations, ce qui n'est pas encore le cas du syndicat des copropriétaires, mais certains des copropriétaires vont être extrêmement moteurs sur les sujets.
Autre question, comment obtenir ma prime rénov 25% du montant des travaux sans condition de revenu?
Dans ce cas-là, il faut choisir ce qu'on appelle un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va accompagner la copropriété dans le cadre de ses travaux. C'est-à-dire que un ingénieur va pouvoir évaluer d'un point de vue énergétique quels sont les gains possibles sur la copropriété pour prouver justement les moins 35%. Ils vont aussi, l'ingénieur va devoir faire ce qu'on appelle une ingénierie financière individuelle, c'est-à-dire se mettre à la porte de l'individu. Parce qu'une copropriété, c'est un ensemble d'individus qui doivent voter d'une seule voix pour ces travaux-là. Et donc, ça change tout que de présenter à une copropriété, vous allez avoir X centaines de milliers de travaux et ça peut faire peur. Alors que si on dit, vous, monsieur Martin, vous allez avoir tant parmi cette, votre quote-part de travaux sera de temps, voilà les subventions que vous allez obtenir et voilà les gains énergétiques et les gains financiers que vous aurez. Et vous, Madame Michu, qui avez un T2 par exemple, ben voilà vos investissements, les gains, etc. Et donc à partir du moment où cet assistant à maîtrise d'ouvrage fait ce travail-là, ça permet de déclencher ensuite les aides de 25% du montant total des travaux. C'est vraiment 25% minimum, parce qu'après il y a des bonus en fonction de sorties, de passoires thermiques par exemple, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Bien sûr. Une dernière question, si les copropriétaires ne font rien, que va-t-il se passer? Là on parlait des échéances.
S'ils font rien, les charges vont exploser, les bailleurs ne pourront plus louer, ouais. Et puis la valeur du bâtiment va baisser, hein, c'est fatal. Donc entretenir son bien de manière générale et en améliorer la performance énergétique, c'est valoriser le bien aujourd'hui.
Voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir en conclusion. Certes, peut-être à court terme, augmentation des charges, en tout cas avec ce PPT, mais aussi à terme, grâce à ces plans, grâce à cette visibilité, à cet outil de pilotage, ce fameux PPT, alors projet et puis plan, on l'a bien compris, augmentation au final, non seulement du confort de l'habitat pour les occupants, et puis surtout, valeur à la revente. Hein. Faut pas oublier ça, évidemment. À contrario, on peut se dire que ceux qui ne font pas les travaux aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué à l'avenir. D'espérer revendre son bien.
Par rapport à un bien neuf, par exemple, il y a vraiment une concurrence aujourd'hui entre les biens neufs et, oui. et les biens anciens. C'est-à-dire qu'un bien ancien antérieur à 1990 consomme 5 fois plus qu'un bâtiment RT 2012 et demain RE 2020. Donc c'est vrai que si les propriétaires souhaitent pouvoir revendre à un bon prix leur logement demain, il faut avoir à améliorer d'un point de vue énergétique leur copropriété.
Et sur le marché de l'immobilier, on avait une dualité bien neuf, bien ancien. Et bien maintenant, on va avoir 3 catégories. Le neuf, l'ancien rénové et l'ancien non rénové.
Ouais, très des strates, et on sait que ça inquiète hein, beaucoup de gens, en tout cas on s'en empare et je pense qu'on aura d'autres épisodes du bâtiment optimisé pour en parler. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce PPPT. Un grand merci au projet de plan pluriannuel de travaux, un grand merci à Mathieu Mialaré, directeur métier de l'administration de biens ABD pour Foncia. Merci Mathieu, et avec puis plaisir. Merci à Michael Thérome, directeur métier énergie pour le bureau d'études Axéo. Ce numéro du bâtiment épuisé se termine. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro.
Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.